La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. RFI vous donne la parole dans un instant. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. Vous avez écouté le journal. Vous souhaitez peut-être un complément d'information. Vous souhaitez mieux comprendre certains sujets que nous venons de traiter. Et bien surtout, n'hésitez pas. Appelez-nous. Vous êtes les bienvenus. Et nos experts au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, vous répondent en direct tous les matins à cette heure-ci. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité ou encore sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Je vous donne le numéro 33 6 89 28 53 64. Alors, c'est un numéro qui ne sert qu'à envoyer soit des questions, soit des commentaires. N'appelez pas sur ce numéro WhatsApp, nous ne répondrons pas. C'est vraiment juste un message, la possibilité pour vous de nous envoyer des messages et des questions. Des questions, justement, on va en prendre dans quelques instants. Je vous rappelle tout de même que dans 30 minutes, nous parlerons de la campagne électorale au Sénégal. Le compte à rebours est lancé. La campagne pour la présidentielle a débuté dimanche et les 5 candidats ont donc désormais 20 jours pour sillonner le pays et surtout pour convaincre les électeurs. L'occasion donc ce matin de vous donner la parole. Vous qui nous écoutez au Sénégal, dites-nous quelles sont vos priorités. Sur quel thème avez-vous envie d'entendre les candidats? Quels doivent être les sujets incontournable de cette campagne électorale? 33 9 693 693 70. Minzan, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Bamako et vous posez la première question de l'émission. Vous souhaitez revenir sur cette annonce qui a peut-être surpris plus d'un auditeur. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on s'y attendait. Le départ annoncé de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les états des RFI. Monsieur Ouattara a annoncé la démission de Monsieur Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, après plusieurs années d'alliance politique. Est-ce que cette annonce a un lien avec le refus de Monsieur Soro Guillaume d'intégrer le RHDP?
Ah, effectivement, on va vous répondre avec Pierre Pinto, qui est le correspondant permanent de RFI à Abidjan. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Guillaume Soro démissionnera en février, c'est entendu, c'est réglé. Voilà les propos du président Ouattara il y a quelques jours. Le président qui répondait à la question d'un journaliste. Je le disais tout à l'heure avant d'accueillir Minzan sur l'antenne de RFI, la rumeur circulait depuis plusieurs semaines. Autrement dit, cette annonce n'a rien de surprenant.
Oui et non. Oui, parce que pendant des semaines, les cadres du RHDP ont appelé Guillaume Soro, dans des termes plus ou moins amicaux d'ailleurs, à libérer le tabouret, c'est-à-dire à céder sa place à la présidence de l'Assemblée nationale s'il ne venait pas au congrès du RHDP le 26 janvier. Donc oui, la pression était très claire. L'argument consistait à dire Soro a été élu à ce poste parce qu'il appartenait au RDR. Le RDR devient le RHDP. Donc si Soro n'adhère pas au RHDP, il doit démissionner. On sait que Guillaume Soro et Alassane Ouattara se sont vus deux fois au mois de janvier, avant le congrès du 26, pour parler de ça, justement. En ne venant pas au congrès du RHDP, Guillaume Soro a donc en quelque sorte confirmé qu'il acceptait de quitter ses fonctions. Il a d'abord délégué ses pouvoirs à son vice-président, Privaoula, pour la durée de son absence, jusqu'au 20 février. Or, selon nos informations, il serait toujours à Abidjan, en tout cas ces derniers jours. Et le 28, vous l'avez expliqué, Alassane Ouattara annonce que Soro Guillaume démissionne avant la fin du mois. C'est entendu, c'est réglé, déclare alors le président de la République. Pour autant, donc, la démission n'a pas encore eu lieu. Et s'il ne démissionne pas de lui-même, il faudra convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le démettre, ou bien attendre la prochaine session ordinaire en avril prochain.
Oui, en tout cas, il démissionnera en février. Nous ne sommes que le 5 février. À suivre, certes. Évidemment, ne nous impatientons pas. Minzan, vous aviez une seconde question.
Oui, j'ai entendu aussi dire que M. Soro Guillaume avait des ambitions politiques. Est-ce cette démission est le début pour lancer sa campagne?
Ah, des ambitions politiques, des ambitions même présidentielles, Pierre Pinto.
Oui, des ambitions présidentielles qui, même s'il ne les a pas encore officialisées, sont un secret de polichinelle ici. D'ailleurs, selon ses détracteurs, Guillaume Soro aurait aimé rester à la présidence de l'Assemblée nationale pour pouvoir le plus longtemps possible bénéficier plus facilement des moyens de l'Assemblée nationale pour faire campagne. Ça, c'est ce que disent ses détracteurs. Donc, mais du côté de Guillaume Soro, on affirme que c'est lui qui est à l'initiative de sa future démission. Quoi qu'il en soit, Soro marque depuis des mois son indépendance, prend ses distances avec ses anciens amis du RDR. Il peut compter sur le soutien de petits partis ou groupes comme le RACI, qui compte une douzaine de députés à l'Assemblée, sur quelques maires aussi. Il a même amorcé un rapprochement en décembre avec Henri Conan-Bédier et le PDCI. Henri Conan-Bédier, l'ancien allié d'Alassane Ouattara, qui a claqué la porte du RHDP l'été dernier. Alors s'agit-il d'un rapprochement politique sincère ou d'une opération de provocation destinée à agacer le président de la République, Alassane Ouattara? On ne sait jamais très bien avec Guillaume Soro. En tout cas, les manœuvres de campagne de Guillaume Soro ont déjà bien commencé. Après, la porte du RHDP n'est pas fermée, puisque Alassane Ouattara, dans son discours au Congrès, a déclaré que le parti choisirait son candidat l'année prochaine et que tout le monde, même les absents, pourrait être candidat à l'investiture, sous-entendu même Guillaume Soro.
À suivre donc. Merci beaucoup Pierre Pinto, correspondant permanent de RFI à Abidjan. Mainzan, je vous souhaite une bonne journée à Bamako, au Mali, où il est 8h17. Franck Alexandre, qui suit les dossiers judiciaires pour RFI, est à mes côtés. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
On vous a demandé de nous rejoindre ce matin car nous avons reçu des questions sur le sort des djihadistes français détenus en Syrie. C'est David qui nous pose les questions. Bonjour David.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Douala, au Cameroun. Nous vous écoutons.
Au Cameroun. Et avec le retrait des troupes américaines de Syrie, le rapatriement des Français à aller combattre auprès de Daesh pose un problème en France. Qu'est-ce qui est prévu à leur arrivée à ces Français?
Alors, Franck-Alexandre, la France s'apprête à rapatrier environ 120 de ses ressortissants actuellement détenus dans des camps au Kurdistan syrien. On voit bien que la France change de position. Jusqu'à présent, elle s'y opposait. Elle disait, alors, il faut qu'il soit jugé sur place.
Je pense qu'il faut faire un peu de contexte. Oui. Quel virage à 180 degrés, Juan, jusqu'ici, vous le disiez, Paris n'envisageait que le rapatriement des enfants et encore, mais martelait que combattants et épouses devaient être jugés sur place et surtout y purger leur peine. La France était peu encline à voir revenir sur son sol ces djihadistes dont le sort allait représenter un casse-tête politique, sécuritaire, judiciaire et même carcéral. Or, tout a changé ces dernières semaines. Vous l'avez vu, David, avec la perspective d'un retrait américain, les zones kurdes pourraient être la cible soit d'une offensive turque ou alors revenir dans le giron de Damas, laissant craindre la fuite d'un millier de djihadistes étrangers vers l'Europe ou d'autres théâtres. Alors, dans un tel contexte, eh bien Paris se dit désormais déterminé à parer à toute éventualité. En fait, Paris change de pied. Environ, vous l'avez dit, Juan, 130 ressortissants français, une cinquantaine d'adultes, des dizaines d'enfants sont détenus par les forces démocratiques syriennes, majoritairement kurdes. Mais leur nombre pourrait augmenter, on le sait, alors que les dernières poches du groupe État islamique sont en train de tomber dans l'est de la Syrie, près de la frontière avec l'Irak. Alors, maintenant, on va s'interroger.
Oui. Que deviendront-ils une fois sur le territoire français? Parlons des adultes, puisque je sais que David a des questions concernant les enfants, et ils sont nombreux, justement, dans cette situation, concernant les adultes.
Mais déjà, encore faut-il qu'ils rentrent, c'est pas évident. Ces djihadistes et leurs proches se trouvent en Syrie, c'est un pays souverain en guerre, mais aux mains des FDS, donc, on l'a dit, majoritairement composé de Kurdes, qui, eux, ne forment pas un État souverain internationalement reconnu. Faire entrer ces prisonniers dans un circuit de procédure inattaquable, c'est délicat, c'est pourquoi les autorités françaises restent très évasives et multiplient les précautions oratoires, sans compter le cas épineux des enfants de parents français nés dans des territoires syriens, alors contrôlés par l'État islamique, sans existence légale de fait.
Oui, vous parliez des enfants, Franck-Alexandre. David ?
Oui, bon.
On vous écoute, vous avez une question justement sur l'avenir de ces enfants des djihadistes français.
Oui, les enfants français, quand ils arriveront en France, j'aimerais savoir s'ils seront pris en charge ou il y a des moyens d'accompagnement pour pouvoir les permettre d'être insérés dans la société française.
Franck-Alexandre, je le disais tout à l'heure, ils sont nombreux. La ministre française de la Justice disait que
dizaines.
Voilà, sur les 130 ressortissants qui pourraient revenir en France, 75% seraient des enfants de moins de 7 ans.
Voilà, alors les nourrissons mis à part, qui eux resteront avec leur mère, les autres seront placés bien dans des familles d'accueil. Ils pourront être recueillis également par des parents, des grands-parents qui les réclament. Et seulement si les services, bien sûr, de la protection de la jeunesse les y autorisent, une certitude, ils seront suivis par des psychologues, des thérapeutes. Car en Syrie, ils ont sans nul doute été confrontés à un niveau de violence très élevé. Concernant les adultes, on peut l'évoquer, eh bien eux, leur cas sera bien différent. Ils seront systématiquement judiciarisés, c'est-à-dire présentés à un juge. Les hommes seront inculpés pour association de malfaiteurs terroristes, incarcérés, jugés. Les femmes aussi, mais en fonction de leur rôle en Syrie, hein, certaines pourraient échapper à la détention et bénéficier d'un contrôle judiciaire et de programmes de déradicalisation. On parle de désengagement.
Oui, en tout cas, ce dossier représente incontestablement un défi inédit pour l'État français. C'est David, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, Juan, merci.
Merci à Franck Alexandre surtout. Bonne journée à tous les deux.
Au revoir.
Au revoir, 9h21 à Paris, appelez-nous 33 9 693 693 70. Vous êtes au Sénégal, vous êtes peut-être un Sénégalais de la diaspora, vous allez donc voter le 24 février. Appelez-nous, on a envie de vous entendre et on vous donnera la parole dans une vingtaine de minutes. Dites-nous quelles sont vos priorités pour cette élection présidentielle du 24 février. Quels sont les thèmes sur lesquels vous avez envie d'entendre les 5 candidats durant les 2 semaines de la campagne électorale. Bonjour Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. Maki a des questions à vous poser concernant les miliciens... Voilà, merci de me sauver. Kwame Nsapu en République démocratique du Congo. Bonjour Maki.
Oui Juan, bonjour et bonjour Léa, bonjour à tous.
Nous vous écoutons, vous êtes en Guinée.
Merci Juan. Alors, en RDC, dans la région du Grand Kassai, plusieurs centaines de membres de la ministre Kamunia Sapu ont déposé leurs armes à Kananga, pardon, quelques jours après l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi ont-ils choisi de déposer les armes maintenant, là, que maintenant, et dans quelle mesure peut-on établir un lien entre la récente élection de Félix Tshisekedi?
Ouais, c'est une excellente question, Léa Lisa Westerhoff. On rappelle tout de même que depuis 3 ans, le Grand Kassai est le théâtre d'affrontements entre justement ces miliciens et les forces de sécurité. Le Grand Kassai est endeuillé, 3000 morts depuis septembre 2016, et il a fallu qu'Étienne Tshisekedi remporte l'élection présidentielle pour que plusieurs centaines d'entre eux déposent les armes.
Oui, tout à fait. En fait, si on se souvient de ces revendications des Kamuina Nsapu, qui, vous le disiez, se sont opposés pendant plus de 2 ans aux autorités de Kinshasa, ce sont des adeptes d'un chef traditionnel du Kassai central qui lui-même a été tué en août 2016 par les forces de l'ordre. Eh bien, ces Kamuina Nsapu demandaient dans un premier temps la reconnaissance par Kinshasa du pouvoir de leur chef, mais aussi, au fil des mois et de plus en plus, ils réclamaient la fin du régime en place et le départ de Joseph Kabila. En fait, au fur et à mesure que ce mouvement s'est opposé aux autorités de Kinshasa, il est devenu politico-coutumier et demandait véritablement le départ de Joseph Kabila. Or, aujourd'hui, le président sortant Joseph Kabila est parti, il y a officiellement un changement de régime, un opposant au pouvoir. Eh bien, du coup, avec cette alternance, il n'y a plus vraiment de raison de se battre pour ces miliciens, une alternance qui ne pouvait donc que susciter la joie des Kamuina Nsapu, encore moins de raison de se battre, sachant que celui qui est devenu président est le candidat pour lequel le Kassai, le Grand Kassai, a voté dans sa grande majorité. Il ne faut pas oublier que le père de Félix, l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, est originaire du Kassai central et jouit donc d'une énorme popularité dans cette région. C'est donc visiblement tout à fait spontanément, en effet, que des centaines de miliciens sont venus déposer leurs armes et dire leur volonté de soutenir l'alternance sans qu'aucun appel particulier n'ait été formulé, pas de promesse non plus. Et donc, c'est visiblement un effet positif à une conséquence directe de cette élection.
Des armes, des fusils, des machettes, des flèches, des couteaux, des amulettes. Maki, vous avez une autre question?
En effet, Juan, en effet. Alors, est-ce qu'un programme est-il mis en place pour la réinsertion de ces 600 miliciens?
Ah, est-ce que les uns vont réintégrer l'armée régulière, les autres vont-ils retourner à la vie civile? Y a-t-il un programme, en fait, pour s'occuper d'eux, à partir de maintenant?
Le retour à l'armée, c'est vrai que c'est traditionnellement ce que font les autorités congolaises. Alors, rien pour le moment, pas de programme pour le moment. Plusieurs sources disent que les premiers qui se sont manifestés, qui sont venus voir le gouverneur pour dire qu'ils voulaient déposer des armes, ont reçu un peu d'argent, mais ces 600 miliciens, ce gros paquet, qui ont été reçus, ont été pour le moment essentiellement reçus par le gouverneur, qui les a rencontrés. Il leur a finalement demandé de rentrer chez eux et a appelé les autres qui voudraient désarmer à le faire sur place auprès des administrateurs des territoires, puisque le gouverneur argumente qu'il est difficile d'avoir des dizaines, des centaines de miliciens armés qui circulent dans la ville et qui font de longs trajets jusqu'à la capitale provinciale pour désarmer, mais rien encore pour leur réinsertion. Alors officiellement,
donc aucun programme n'est prévu pour l'instant.
Alors rien officiellement. Le gouverneur me disait que des discussions seraient en cours au sujet d'un programme, mais sur place, les ONG qui travaillent avec la Kamuina Nsapu depuis de longs mois disent ne pas du tout être au courant. C'est donc une sorte de situation d'attente qui règne, qui suscite déjà d'ailleurs un peu d'inquiétude, puisque pour le moment à Kananga, par exemple, la plupart de ces 600 miliciens ont en effet déposé leurs armes, leurs machettes, etc. Mais elles sont encore à Kananga et elles demandent un soutien financier pour pouvoir rentrer chez eux, rejoindre leur famille. Elles disent ne pas avoir de ressources et c'est d'ailleurs l'un des grands problèmes de cette région qui a été largement traumatisée par ce long conflit, le problème financier, l'absence de travail. Bref, certains acteurs de la société civile s'inquiètent déjà qu'il n'y ait pas de programme de prévu, parce que si on leur propose rien, et bien évidemment le risque c'est que ces gens-là reprennent les armes. Ce qui est sûr, je le disais, c'est que les attentes sont très importantes. La situation économique et sociale est critique dans le Grand Kassai. Dans le Grand Kassai, les deux ans de conflit avec le pouvoir ont ravagé les récoltes. Il y a énormément de destruction dans une région qui est déjà largement délaissée. Donc les attentes sont très importantes et l'espoir évidemment c'est que ce nouveau régime soit plus à l'écoute des besoins et de la misère des Kassaïens, avec, je le disais, ce manque d'infrastructures et ce chômage record qui caractérise cette région du centre du pays.
A-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, Maki. C'était parfait.
C'est merci parfait, bien. Merci, je vous souhaite une bonne journée à Conakry. Un grand merci également à Léa Lisa Vesterov d'être venue vous répondre. On avait prévu des questions sur le Venezuela, il nous reste malheureusement à peine 2 minutes 30, donc ce serait dommage. On prendra le temps demain, Mamadou, si vous le souhaitez, de répondre à vos questions, d'autant que l'opposant Juan Guaido est maintenant reconnu par près d'une vingtaine de pays européens, et on voit bien que la pression s'accentue sur Nicolas Maduro. Alors Mamadou, vos questions sont toujours pertinentes et elles le seront évidemment demain, donc comptez sur notre fidélité, on vous appellera. Vous nous appelez en tout cas au standard ce matin pour commenter la campagne électorale au Sénégal. 5 candidats sont en lice, on a d'un côté donc le président sortant Macky Sall qui veut être réélu dès le premier tour et face à lui, 4 opposants qui eux sont convaincus qu'un second tour permettrait de provoquer l'alternance. En tout cas, ces 5 candidats n'ont qu'un objectif aujourd'hui, c'est de convaincre le maximum d'électeurs. Ils sillonnent le pays depuis dimanche. La campagne électorale est officiellement ouverte depuis maintenant 48 heures. On la suit d'ailleurs avec notre correspondant permanent au Sénégal, Guillaume Thibault, qui chaque jour nous envoie ses reportages que vous pouvez évidemment écouter dans les différentes éditions, accompagné du photographe Sylvain Cherkaoui, des reportages, des photos que vous pouvez consulter évidemment sur nos différentes plateformes numériques. Et ce matin, on vous donne la parole sur vos priorités. Vous qui êtes Sénégalais, qui allez certainement vous déplacer le 24 février pour voter, dites-nous sur quelles thématiques vous attendez les candidats. Quels sont les sujets indispensables de cette campagne électorale ? Je me souviens qu'il y a 7 ans, on parlait beaucoup de lutte contre le chômage, on parlait de bonne gouvernance économique, politique, on parlait également de la paix en Casamance. Quoi d'autre ? La cherté de la vie, c'était aussi une des préoccupations principales des Sénégalais. Dites-nous si 7 ans plus tard, ces thématiques sont toujours une priorité pour vous. Ce sera d'une certaine façon aussi l'occasion de dresser un bilan du septennat Macky Sall. Donc appelez-nous 33 9 693 693 70. Je lirai évidemment comme tous les matins quelques-unes de vos réactions. Il y a par exemple Moussa qui est professeur d'histoire à Dakar. Il nous dit, pour moi les thèmes principaux doivent être la séparation des pouvoirs, la lutte contre le chômage, un enseignement de qualité et une bonne gestion du pétrole et du gaz. Issa, lui, estime que l'industrialisation du pays doit être la priorité numéro un et il parle également de la formation technique et scientifique des jeunes. Le débat s'annonce passionnant. On se retrouve dans 10 minutes. Il n'y aura pas de journal dans un instant. Pas de dernière édition d'Afrique Matin en raison d'un mot d'ordre de grève.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.